Béchou arrête Jim Barnett. Béchou s'engouffra sous la voûte de la préfecture, traversa des cours, monta des escaliers et, sans même frapper, ouvrit une porte, se rua vers son chef direct et balbutia, la figure décomposée par l'émotion. « Jim Barnett est dans l'affaire des Rocs. Je l'ai vu devant la maison du député des Rocs, de mes yeux vus. »«
Jim Barnett ?»
« Oui, le détective dont je vous ai parlé plusieurs fois, chef, et qui a disparu depuis quelques semaines. »«
Avec la danseuse Olga ?»«
Oui, mon ancienne femme. »«
Et alors ?»«
Je l'ai filé. »«
Sans qu'il s'en doute. » »«
Un homme filé par moi ne s'en doute jamais, chef. »« Et cependant, tout en ayant l'air de flâner, il en prenait des précautions, le brigand. »« Il a contourné la place de l'Étoile, il a suivi l'avenue Kléber, et il s'est arrêté au rond-point du Trocadéro. » Près d'une femme assise sur un banc, une sorte de bohémienne, jolie, pittoresque, avec son châle de couleur et le casque de ses cheveux noirs. Au bout d'une minute ou deux, ils ont parlé, sans rhumer les lèvres presque, et en désignant du regard, plusieurs fois, une maison située au coin de l'avenue Kléber et de la place. Et puis il s'est levé et il a pris le métro.
Toujours filé par vous?
Oui, malheureusement, un train passait dans lequel je n'ai pu, moi, monter à temps. Quand je suis revenu au rond-point, la bohémienne était partie.
Mais cette maison qu'il surveillait, vous y avez été?
Et j'en arrive, chef. Au quatrième étage de cette maison, dans un appartement meublé, habite, depuis 4 semaines, le père de l'inculpé, le général en retraite des Rocs. Lequel, comme vous le savez, est venu de province pour défendre son fils, accusé de rapt, de séquestration et d'assassinat. La phrase fit de l'effet, et le chef reprit.
« Vous vous êtes présenté chez le général ?»«
Il m'a ouvert lui-même la porte, et tout de suite, je lui ai exposé la petite scène à laquelle j'avais assisté. Il n'en fut pas surpris. La vieille, une bohémienne, était venue le voir. » Et lui avait offert ses services de chiromancienne et de tireuse de cartes. Elle lui demandait 3000 francs et devait attendre la réponse aujourd'hui, sur la place du Trocadéro, entre 2 et 3 heures. Au premier signal, elle serait montée.
Et que proposait-elle?
Elle se faisait fort de découvrir et d'apporter la fameuse photographie.
La photographie que nous cherchons inutilement?
Celle-là même! Celle qui confondrait ou sauverait le député des Rocs, selon qu'on se place au point de vue de l'accusation ou au point de vue de la défense représentée par le père.
Un long silence suivit, et le chef murmura d'une voix de confidence.
« Vous savez, Béchou, quel prix nous attachons à la possession de cette photographie ?»«
Je le sais. »«
Plus encore que vous ne pouvez le savoir. » Il faut, vous entendez, Béchou, il faut que cette photographie passe par nos mains avant d'être livrée au parquet.
Et il ajouta, plus bas encore,
« La police d'abord. Vous l'aurez, chef, et je vous livrerai en même temps le détective Barnett. »
Un mois auparavant, le financier Veraldi, un de ces rois de Paris grâce à sa fortune, à ses relations politiques, à la hardiesse et au succès de ses entreprises, avait attendu vainement sa femme à l'heure du déjeuner. Le soir, elle n'était pas encore rentrée, et de toute la nuit, on ne la vit point. La police fit des recherches, et l'on établit de la façon la plus précise que Christiane Veraldi, qui demeurait près du bois de Boulogne et s'y promenait chaque matin, avait été accosté par un monsieur dans une allée déserte et entraîné par lui vers une automobile fermée que l'agresseur emmenait aussitôt à grande allure du côté de la Seine. Le monsieur, dont personne n'avait discerné le visage et qui semblait jeune de tournure, était vêtu d'un pardessus gros bleu et coiffé d'une cape noire. Pas d'autre indication. 2 jours s'écoulèrent. aucune nouvelle. Puis, coup de théâtre. Une fin d'après-midi, des paysans, qui travaillaient non loin de la route de Chartres à Paris, aperçurent une automobile qui filait avec une rapidité extraordinaire. Soudain, des clameurs. Ils eurent la vision d'une portière qui s'ouvre et d'une femme qui est projetée dans le vide. Ils s'élancèrent aussitôt. En même temps, la voiture montait sur le talus, entrait dans une prairie, s'accrochait à un arbre et capotait. Un monsieur, sain et sauf par miracle, en surgissait, qui se mettait à courir vers la femme. Elle était morte. Sa tête avait porté sur un tas de cailloux. On la transporta jusqu'au bourg voisin et l'on avertit la gendarmerie. Le monsieur ne fit aucune difficulté pour donner son nom. C'était le député Jean Desroques, parlementaire considérable et chef de l'opposition. La victime n'était autre que Madame Veraldi. Tout de suite, la bataille s'engagea, ardente et haineuse de la part du mari, non moins ardente peut-être du côté de la justice que stimulaient certains ministres intéressés à la perte du député Desroques. L'enlèvement ne faisait aucun doute, puisque Jean Desroques était vêtu de bleu et coiffé d'une cape noire, comme l'agresseur de Christiane Veraldi. Quant à l'assassinat, le témoignage des paysans était catégorique. Ils avaient vu le bras de l'homme qui poussait la femme. La levée de l'immunité parlementaire fut demandée. L'attitude de Jean Desroques donnait à l'accusation une force singulière. Sans détour, il avoua le rapt et la séquestration. Mais il opposa un démenti absolu au témoignage des paysans. Selon lui, Madame Veraldi avait sauté d'elle-même hors de la voiture et il avait fait l'impossible pour la retenir. Sur les motifs de ce suicide, sur les circonstances de l'enlèvement, sur ce qui s'était passé durant les 2 jours de l'absence, sur les régions parcourues, sur les péripéties qui avaient précédé le dénouement tragique, il se tut obstinément. On ne put établir où et comment il avait connu Madame Veraldi, et même si elle le connaissait, puisque le financier Veraldi n'avait jamais eu l'occasion de lui serrer la main. Si on le pressait de questions, il répondait
« Je n'ai rien de plus à dire. Croyez ce que vous voudrez. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi qu'il arrive, je ne dirai rien. »
Et il ne se présenta pas devant la commission de la Chambre des députés. Le lendemain, lorsque les agents de la police, parmi lesquels Béchoux, vinrent sonner à la porte de son domicile, il ouvrit lui-même et déclara
« Je suis prêt à vous suivre, messieurs. »
On fit une perquisition minutieuse. Dans la cheminée de son cabinet de travail, un monceau de cendres attestait que beaucoup de papiers avaient été brûlés. On fouilla les tiroirs, on vida les meubles, on secoua les livres de la bibliothèque, on ficela des liasses de documents. Jean Desroques suivait d'un œil indifférent cette fastidieuse besogne. Un seul incident marqua la scène, mais violent et significatif. Béchoux, plus habile que ses collègues, ayant saisi dans un vide-poche un mince rouleau de papier qui semblait traîner là par hasard, et cherchant à l'examiner, Jean Desroques bondit et le lui arracha des mains.
« Vous voyez bien que ça n'a aucune importance. C'est une photographie, une vieille photographie, décollée de son carton. »
Béchoux réagit avec d'autant plus de vigueur que l'agitation de Desroques lui paraissait plus anormale. Et il voulut reprendre le rouleau. Mais le député sortit en courant, ferma la porte derrière lui et passa dans l'antichambre voisine où veillait un gardien de la paix. Béchoux et ses camarades les rejoignirent aussitôt. Il y eut discussion. On visita les poches de Jean Desroques. Le rouleau de papier qui contenait la photographie n'y était pas. On questionna le gardien de la paix. Il avait barré le passage du fugitif et, pour ce qui était du document cherché, n'avait rien vu. Mis sous mandat, le député Desroques fut emmené. Voilà le drame dans ses lignes essentielles. Il fit tant de bruit à l'époque, un peu avant la Grande Guerre, qu'il est inutile de rappeler des détails que personne n'ignore et de noter les phrases d'une instruction judiciaire qui n'aurait abouti à aucun résultat sans l'intervention de Béchoux. Il ne s'agit nullement ici de démêler l'affaire des Rocs, mais de mettre en relief l'épisode secret qui en provoqua le dénouement public, tout en terminant le duel de Béchoux contre son adversaire, le détective Barnett.